Bonsoir. Vous allez bien? C'est toujours une joie, c'est toujours un honneur et un privilège de venir avec vous partager sa parole, parce qu'il est le pain de vie et sa parole est le pain de vie dont on a besoin. Amen. Et si tu as besoin d'être fortifié ce soir, ben tu es à la bonne place. Et si tu n'as pas besoin d'être fortifié ce soir, ben tu es à la bonne place quand même. Peu importe. Saint-Esprit, je te remercie pour ta grâce. Je te remercie, Esprit de grâce, parce que tu es là au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens et prends toute la place. Que ta parole soit reçue dans les cœurs avec foi, parce que lorsque ta parole est reçue avec foi, elle a le pouvoir de nous sauver, de nous transformer. Non seulement ta parole produit la foi, mais elle produit, Seigneur, toutes ces percées dont nous avons besoin. Parce que tu es, oui, l'Emmanuel, Dieu avec nous, et c'est une promesse pour chacun d'entre nous. Je te prie que chaque personne dans ce lieu puisse s'approprier cette promesse pleinement, parce que Saint-Esprit, tu es là. C'est toi qui rends la promesse de l'Emmanuel réelle en nous et au travers de nous. Que personne dans ce lieu ne puisse ressortir sans pouvoir extraire de ta parole une mesure de foi, d'amour et d'espérance plus grande dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, la puissance d'un guépard se trouve dans sa rapidité. La puissance d'un éléphant se trouve dans sa masse corporelle. La puissance d'un serpent se trouve dans sa ruse. La puissance d'un lion se trouve dans son courage. La puissance d'un homme se trouve dans sa pensée. Il faut bien comprendre ça. Dieu n'a pas donné à l'homme la vitesse du guépard. Dieu n'a pas donné à l'homme la force du lion. Mais il a donné à l'homme une force, une puissance qui a permis à l'homme de dompter les lions, de dompter les éléphants, qui a permis à l'homme de créer la voiture pour aller plus vite que le guépard. Dieu a donné à l'homme la puissance de la pensée. C'est extrêmement puissant, la pensée. C'est une arme redoutable. C'est elle qui nous différencie de toutes les autres créatures terrestres. La puissance de l'aigle est dans ses yeux, sa vue perçante. Il vole très haut, il voit de loin. Et Dieu a donné à l'homme la pensée. Avec maintenant les jumelles et les satellites, on voit plus loin que l'aigle. On est capable de prendre une photo avec tellement de millions de pixels qu'on voit la plaque d'immatriculation d'une voiture de loin, de très loin. Un aigle verrait pas ça non plus. Je veux dire, Dieu a donné à l'homme la pensée. Le problème, c'est que l'homme ne réalise pas que la pensée est une arme redoutable, extrêmement puissante. Avec sa pensée, l'homme crée. Il est capable de créer, d'imaginer, de dompter l'impossible. Il ne sait pas voler, il crée les avions. On vole plus haut que l'aigle et plus longtemps et plus loin. Je veux dire, il ne sait pas voler, il crée les fusées. C'est juste impressionnant ce que Dieu a donné à l'homme. La puissance de l'homme, c'est sa pensée. C'est sa pensée qui fait la différence. L'homme, avec sa pensée, a créé des choses extraordinaires. Et c'est Dieu qui nous a donné cet outil phénoménal. Il nous a donné la pensée pour pouvoir dompter les défis, les challenges, les difficultés que nous avons dans la vie. Quels que soient ces défis, je dis bien, quels que soient ces défis, il y a la puissance dans ta pensée. C'est ça qui rend l'homme spécial. C'est comme dans ce passage dans la Bible avec le roi Nabucodonosor de Babylone, qui était un des plus grands rois que la terre ait porté. Il est cette tête d'or que Daniel voit sur cette statue. et cette tête d'or que Daniel voit, et un homme hyper puissant, mais lorsqu'il était tellement orgueilleux, Dieu a dit, on va lui donner la pensée d'un animal, le cœur d'un animal va penser comme les animaux. Et il est resté à brouter de l'herbe pendant des années, en tout cas pendant un temps, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que Dieu est Seigneur sur tous les royaumes qui sont sous la terre et dans les cieux. La pensée que tu as est une arme redoutable. Et c'est incroyable comment parfois nous sommes plus enclins à croire en la capacité du diable à nous faire penser comme lui, plus qu'en la capacité de Dieu à nous faire penser comme lui. C'est juste impressionnant et c'est dommage, parce que ce n'est pas ce que Dieu veut. La pensée est une arme puissante et redoutable. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 4:1 « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. » Pierre avait compris que la pensée est redoutable. C'est la pensée de Dieu qui fait de toi une arme ou pas, entre ses mains. C'est la pensée de Dieu en toi qui fera la différence pour trouver les solutions dans tes circonstances. Ici, le mot « pensée » dans 1 Pierre 4:1, c'est le mot grec « ennoia », composé de deux mots « en » et « noia » qui vient de « nous ». « Nous » signifie la faculté de l'esprit à percevoir, à comprendre, à juger, à réfléchir, à avoir des idées et à imaginer. J'aime dire « tu es souvent à une pensée de ta percée ». Comment les solutions ont été créées ? Comment les ampoules, comment les enceintes, comment ça a été solutionné. À un moment donné, il y a eu un déclic. On voit ça dans les films ou les BD ou les dessins animés. Il y a une ampoule qui arrive. Ting. Et quand il y a une ampoule, c'est « Ah, Eureka !» J'ai trouvé la formule toute nouvelle. Et en réalité, c'est ça. C'est que tu as une pensée de ta percée. Tu as une pensée de changer la situation qui te tourmente peut-être depuis longtemps. Ton arme, c'est ta façon de penser. C'est une arme. Comment tu penses ton passé, comment tu penses ton présent, comment tu penses l'adversité, comment tu penses les moments de bonté, c'est une arme. C'est ça qui fait la différence. Avec la pensée, on peut produire la mort ou la vie. Avec la pensée, l'homme a créé des choses extraordinaires et puis des choses horribles. La pensée fait la différence. Et Dieu nous donne la pensée pour que nous puissions avoir la faculté de percevoir, d'imaginer, de comprendre et de créer. Dieu a créé les arbres et nous donne la pensée pour créer les chaises. Il faut comprendre ça, l'homme a... Et Dieu prend plaisir à ça. C'est notre arme, il nous a donné ça. Pour que nous puissions penser, être créatifs. Pour trouver des solutions. Tu as ta pensée pour faire la différence. Tu as ta pensée pour trouver peut-être des solutions aux peines de ton âme. Des pensées pour trouver des solutions aux peines relationnelles. Quel que soit... On a la pensée pour faire la différence. Ce que tu penses de toi-même est crucial. C'est ça qui fait la différence. C'est pas ce que tu penses des autres, ce que les autres pensent de toi. C'est toi ce que tu penses de toi. Peu importe ce que les autres disent de toi, toi ce que tu penses de toi, c'est ça qui va t'affecter ou pas. Si quelqu'un dit que t'es nul, si quelqu'un dit que tu vaux rien, mais que tu penses effectivement que t'es nul et que tu vaux rien, c'est pas ce qu'il pense de toi, c'est ce que tu penses de toi. Et si tu penses comme lui qui pense mal de toi, c'est compliqué là. C'est ce que tu penses de toi. Si quelqu'un pense mal de toi, il pense que t'es nul, mais toi tu penses pas ça, t'es bien. La vérité, elle est là. La Bible dit dans Proverbe, l'homme est tel les pensées de son âme. Proverbe 23, 7. Tu es tel, je suis tel que je pense. Tu es le résultat de ce que tu penses. Tu es le produit de ta façon de penser. Et la pensée est une arme. Tu sais, tu peux changer d'endroit. Tu peux aller vivre à Paris. Tu peux aller vivre à New York. Tu peux peut-être changer la déco de ta maison. Tu peux changer de maison. Tu peux en avoir marre et changer de meuble. Tu peux changer ta garde-robe. Tu peux changer ta coiffure. Tu peux changer de couleur de coiffure si tu veux. Tu peux couper tes cheveux courts. Tu peux les laisser longs. Si tu ne changes pas ta façon de penser, tu ne changeras pas. Quelques années de cela, une personne qui a vécu réellement une tragédie que je connais, elle a perdu sa fille dans un accident de voiture. Terrible. À La Réunion. Et me dit Steve, c'est pas possible. Je ne peux pas rester ici. Parce qu'à chaque fois que je passe sur cette route, je ne peux pas la monter. Et je comprends. Il dit, j'ai une peine. Et je pense qu'aller ailleurs va m'aider à oublier cette peine et à changer. Changer de lieu. Eh bien, ça va être changer de vie. Ça peut initier et ça peut inciter, oui. L'effet de nouveauté donne une force, il y a de la force dans le nouveau. Il y a un nouvel élan dans le nouveau. Et effectivement, il est parti avec sa famille vivre ici, à Béziers. Et j'ai rencontré dernièrement, et je lui dis alors, il me dit non, ma peine est toujours là. Où que je parte, c'est toujours là. Et c'est ce que je lui avais dit. Je lui ai dit, mais je comprends, ça peut initier au départ. Mais si tu ne changes pas à l'intérieur, tu ne changeras pas parce que la peine que tu as en toi, que tu ailles en Alaska, ou que tu ailles au Japon, ou que tu ailles au pôle sud ou au pôle nord, elle est en toi. Si tu n'es pas transformé à l'intérieur, transforme ce que tu veux à l'extérieur, ça va être superficiel et ça ne tiendra pas. Et c'est dans la pensée que ça commence. Comme dit la parole de Dieu, dans Romains 12, 2, « Soyez transformés par ce qui oriente votre pensée. » Et le mot « pensée » ici, c'est le mot « nous ». D'autres versions disent « intelligence », mais c'est le mot « pensée ». C'est le même mot. « Afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui lui est agréable, bon et parfait. » C'est ça qui fait la différence, c'est comment tu penses. Si tu penses que tu ne vas jamais y arriver, devine quoi? Si tu penses que, ben oui, mais mon passé c'est comme ça, je suis comme ça à cause de mon passé, tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas les circonstances qui t'affectent, c'est ce que tu penses dans les circonstances qui t'affectent. Et je comprends qu'il y a des circonstances plus difficiles que d'autres. Et on en traverse tous, mais vraiment tous. Et pourtant, la pensée est une arme. La pensée, cette puissance que Dieu a donnée à l'homme, il a donnée à l'homme, pas uniquement aux chrétiens. Il y a parfois des non-croyants qui pensent plus de manière lucide dans l'adversité que les chrétiens. C'est ça la vérité, parce que Dieu a donné la pensée aux hommes, aux croyants et aux non-croyants. Et pourtant, dans 1 Corinthiens 2, 16, la Bible dit « Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ. » Attends, si Dieu a donné la pensée à tout homme, et que la pensée, la puissance que Dieu a donnée à l'homme avec un grand H, et que la pensée que cette puissance est donnée aux croyants et aux non-croyants, mais le croyant a la pensée de Christ. Alors ma question, c'est qu'est-ce qui différencie le croyant qui a la pensée de Christ d'un non-croyant ? La pensée de Christ a-t-elle effectivement une puissance phénoménale par rapport juste à la pensée de l'homme ? Bien sûr que oui ! Bien sûr que oui ! C'est évident ! Quand la Bible dit, mais nous avons la pensée de Christ, le mot Christ, c'est le oint et son onction. Ça signifie que quand tu penses comme Christ, tu as la pensée de l'onction. Et quand tu as la pensée de l'onction, c'est l'onction qui brise le joug. La pensée de l'onction est capable de briser les effets du péché en toi. Parce que tu penses comme Christ, tu penses avec son onction. Et son onction a la capacité de détruire la pensée du diable à l'intérieur de toi. On peut, sans s'en rendre compte, tellement penser comme Dieu ou pas. Parce que ici, le mot « nous avons la pensée de Christ », ce groupe de mots signifie que nous pouvons penser comme Dieu. Attends, si toi et moi, on peut penser comme Dieu. Franchement, alors qu'il y en a qui ne pensent pas comme Dieu, qui déjà utilisent la pensée comme une arme, on peut faire quelque chose. Hein. Je pense qu'on peut faire quelque chose pour ton état moral, pour tes relations, pour ta famille, pour ta santé. C'est d'arriver à penser comme Dieu pense. C'est ça, avoir la pensée de Christ. C'est penser comme Dieu. Que tu penses comme Dieu, tu libères son onction dans ta vie, en toi. Et l'onction détruit les effets du diable en toi. Et on peut tellement penser comme Dieu sans même s'en rendre compte. Et penser comme le diable sans même s'en rendre compte. Exactement comme Pierre, qui, Jésus dit, mais que les gens disent de moi, qui je suis pour eux. Et Pierre et les disciples, certains disent, c'est le prophète qui doit venir, d'autres, c'est Jean-Baptiste qui revient. Il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et l'apôtre Pierre dit, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, Jésus se retourne vers Pierre. Il dit, mais Pierre, mais sur cette pierre, cette révélation, je bâtirai mon église. Waouh, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Waouh! Pierre, là, se dit, wouh, j'ai pensé comme Dieu. J'ai pensé comme Dieu. Là, il était content. Mais il ne s'était pas rendu compte. Il a répondu d'une manière machinale. Et Jésus lui dit, ça, c'est le Père qui t'a révélé cela. Là, dans son cœur, il a dû dire aux autres disciples, vous avez vu? Révélation. Et puis un instant après, Jésus, dans le même contexte, lui dit, mais je dois aller maintenant mourir à la croix pour vous. Et là, Pierre dit, non, je vais t'empêcher de faire ça. Et Jésus le regarde et lui dit, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Je veux dire, le gars fait le grand écart un instant. Dans un instant, c'est Dieu qui m'a révélé cela, c'est mon Père dans les cieux. Ouh ! Un instant après, arrière de moi, Satan. Et les deux fois, il ne s'est pas rendu compte. Les deux fois, il n'a pas dit « Ainsi parle l'Éternel !» Dieu le Père me dit que tu es le Christ. Il ne savait même pas. Merci. Il ne savait même pas. Merci. Et quand il dit « Mais non, moi je t'empêcherai d'aller à la croix », il ne savait même pas non plus qu'il était inspiré par Satan. Et ça nous arrive à tous. C'est facile pour nous de parler de Pierre. Mais Pierre, moi au ciel, je vais le prendre dans mes bras. Je vais dire merci pour l'exemple. Je ne veux pas savoir comment tu m'as réconforté, toi. Et c'est important de comprendre, on peut penser, on peut avoir la pensée de Christ. Mais quelqu'un, c'est impossible, quelqu'un d'avoir la pensée de Christ et être dépressif. C'est pas possible d'avoir la pensée de Christ et manquer de foi. C'est pas possible d'avoir la pensée de l'onction et ne pas laisser cette onction réellement briser le joug de l'ennemi. Il y a un avantage certain pour les enfants de Dieu d'avoir la pensée de Christ. Parce que la pensée est une arme. Et c'est dans ce domaine que Satan veut nous désarmer. Il veut l'utiliser contre nous. J'ai paraphrasé quelques passages de l'Écriture pour essayer de mettre en évidence la pensée de Christ. Quel est l'avantage? Et on va voir quelques points ensuite. Ma question, c'est quel est donc l'avantage du chrétien? Ou quel profit évident retirons-nous de la pensée de Christ? Les avantages et les profits sont incomparables à tout égard. Car c'est les chrétiens qui reçoivent le salut en Jésus-Christ par le moyen de la foi en sa mort et sa résurrection. Mais il est clair que s'il est mort pour nous, alors que nous ne l'aimions pas, à bien plus forte raison, maintenant que nous croyons en lui, nous avons accès à la vie abondante qu'il nous a promis. Et que dire? Si par manque de foi, certains ne parviennent pas à expérimenter cette vie d'en haut, cela rend-il vain la parole de Dieu et son désir de voir les enfants, ses enfants être au bénéfice de sa vie? Absolument pas. Au contraire, que la vérité de l'amour surnaturel de Dieu soit l'expérience de vie à atteindre par tous. Et que personne ne fasse des faits qu'il a expérimentés dans sa vie la vérité. Car comme dit les Écritures, que Dieu soit reconnu comme vrai et que tout homme dont la vie contredit sa vérité soit trouvé comme menteur. Que faut-il donc conclure? Que nous les chrétiens, nous sommes supérieurs aux autres hommes? Pas du tout. Nous portons cette arme incomparable qu'est la pensée de Christ dans des vases de terre, afin qu'en manifestant ses qualités, la gloire lui revienne pleinement. D'ailleurs, poussé par la gratitude et la foi agissante par l'amour, nous sommes responsables et redevables de manifester envers ceux qui nous entourent les avantages et les bénéfices incomparables de la pensée de Christ dans notre façon de vivre. Il y a des avantages incomparables à penser comme Christ. Quelqu'un ne peut pas penser comme Christ et être désespéré. C'est pas possible, c'est pas compatible. Quand tu as la pensée de Christ, tu t'attends à sa justice, tu espères, tu t'attends à sa paix, tu aimes plus, tu persévères, tu endures. Tu as la joie, tu demeures dans la paix. Parce que une des premières qualités lorsqu'on a la pensée de Christ, c'est qu'elle t'apprend à vivre à partir de ton identité céleste. Elle t'apprend à vivre à partir de ce que Christ a fait. Éphésiens 4, 23. À vous laisser renouveler par l'esprit de votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. À vous renouveler par l'esprit de votre intelligence. C'est le même mot. Nous. Ça parle de ça, ça parle d'être transformé par l'esprit de notre intelligence. Pourquoi? Pour revêtir l'homme nouveau. Si tu préfères, il n'y a pas de limite à ta transformation à l'image de Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu imagines ça. Tu peux regarder le ministère le plus influent que la terre ait porté après Jésus. Paul n'est pas loin. L'apôtre Paul. Mais il n'y a pas de limite. Et je sais que certains ne me croient pas là, non. Ils disent, oh non, il y a une limite quand même. Ben écoute, il sera fait selon ta foi. peux pas me battre avec toi. Et la parole de Dieu était annoncée, la bonne nouvelle, depuis le départ. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. La Bible dit repentez-vous, pas parce que l'enfer est proche. Repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. Il n'est jamais loin de toi, le royaume. Il n'est jamais loin de moi, le royaume. Mais la Bible dit repentez-vous. Le mot repentir, c'est le mot métanoïa. Méta qui signifie trans, comme transformer, métamorphoser, c'est changer de forme. Noïa, c'est la pensée, c'est changer de façon de penser. Changer de façon de penser pour accéder à cette réalité. Changer de façon de penser pour bénéficier de cette réalité que le royaume de Dieu, qui consiste non pas en le manger et le boire, mais en la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est de ça qu'on parle. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Changer de façon de penser pour accéder à cette réalité et avoir accès à sa puissance, avoir accès à sa force. Repentez-vous. Retournez votre façon de penser. Pensez autrement pour pouvoir penser comme Christ et bénéficier de la réalité de Christ en vous d'abord. Parce qu'il est où le royaume de Dieu, nous dit les Écritures ? En nous. Et donc pour qu'il puisse être en nous et se démontrer au travers de nous, il faut penser autrement. Il n'est jamais loin. Ça parle de ça. Et frères et sœurs, c'est avec plein d'amour que je vous partage ce message. Parce que mon cœur est triste lorsque je vois les enfants de Dieu avoir une vie de survie. Et on passe tous par les difficultés. Jésus a dit, je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. Il n'a pas dit, je suis venu vous donner une vie d'église en abondance. Gloire à Dieu pour l'église. C'est bien de vous voir ce soir. Mais ça parle de la vie abondante de Jésus-Christ. Et pour ça, il faut penser autrement. Le royaume des cieux est proche. Pense autrement pour accéder à cette réalité. Et le royaume consiste à la justice, la paix et la joie. Quand on pense comme Dieu pense, alors on est dans sa paix. Quand on pense comme Dieu pense, on voit autrement les circonstances. C'est exactement ce qui est arrivé à Joseph. Un exemple incroyable dans les Écritures. Et j'aime parler de lui souvent, parce qu'il m'inspire ce gars-là. Il n'avait pas le sang de l'agneau. Il n'avait pas le nom de Jésus. Il n'avait pas la croix. Il n'avait pas la résurrection. Il n'avait pas les promesses qu'on a. Il n'avait pas la nouvelle alliance. Il n'avait pas l'église de dimanche. Il n'avait pas Internet. Il ne pouvait pas écouter la parole de Dieu tout le temps. Il n'avait pas la Bible. Et même pas l'Ancien Testament. Et pourtant, il était dangereux. Vendu par ses frères. Trahi. Rejeté. Abandonné. Vendu comme esclave. Ensuite, en tant qu'esclave. Prisonnier. Et un jour, il revoit ses frères. Il aurait pu dire, c'est votre faute si ma vie est pourrie. Il aurait pu leur dire, si j'ai galéré toutes ces années, c'est à cause de vous. Je vous ferai la peau. Il dit à ses frères, mais franchement, ma vie de galère et d'injustice, alors j'ai rien fait. C'est pas de ma faute si papa me préférait. Il aurait pu dire ça. Il aurait pu dire, je suis pas parti voir papa. Il dit, papa, préfère-moi. Il a même pas cherché de le préférer de Jacob. C'est la faute à Jacob. Alors, il aurait pu dire, pourquoi vous avez pas vendu papa? Il aurait pu le dire. Mais une vie des années de galère. Et quand il voit ses frères qui flippent, parce que quand il le revoit, les premiers ministres, de l'homme le plus puissant sur terre à ce moment-là, et c'est lui qui distribue les repas, et les gars meurent de faim. Ah, ils sont vraiment mal barrés. Mais Joseph, sa pensée était différente. Dans ces circonstances, quand ses frères viennent, il dit « Ne vous inquiétez pas, ne vous tourmentez pas. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. » Je veux dire, il a réussi à penser autrement ces circonstances. Repentez-vous, pensez autrement pour avoir accès à cette réalité. Ce n'est pas être dans le déni. Hein. Le déni, c'est autre chose. Mais il a pensé avec la pensée de Dieu. Il a pensé autrement ses circonstances passées. Et quand tu te repenses, c'est-à-dire tu retournes ta façon de penser pour au lieu de penser comme un homme, apprendre à penser comme Dieu à partir de sa parole, alors Dieu retourne ta situation. Parce que tu as retourné ta façon de penser, Dieu retourne ta situation. Et souvent, nous, on attend que Dieu retourne notre situation pour retourner notre façon de penser. Mais ce n'est pas bon. C'est pour ça qu'on doit marcher par la foi et non par la vue. Parce que souvent, on attend de voir que Dieu retourne les circonstances pour nous retourner notre façon de penser. Ça ne marche pas comme ça. Joseph a dû d'abord retourner sa façon de penser. La situation de son passé, trahi par ses frères. Pour qu'à partir de sa façon de penser, il ne puisse pas rendre le mal pour le mal. Parce qu'il avait déjà triomphé du mal qu'on avait fait par le bien. Il n'a pas laissé le mal qu'on a fait envers lui produire du mal en lui et au travers de lui. Et pour ça, il faut penser autrement. Parce qu'on a tendance, lorsqu'on souffre, à être disposé à faire souffrir les autres. Mais Joseph avait déjà eu la victoire à l'intérieur. Déjà. Et c'est que tu retournes ta façon de penser, c'est alors que le faible dit « je suis fort ». Comment le faible dit « je suis fort » ? Parce qu'il pense comme Christ. Et malgré la situation apparente de faiblesse, sa force se trouve en Christ. Il puise dans la réalité du royaume de Dieu. Il tape dans la puissance, parce que le royaume ne consiste pas en parole, mais en puissance. Il tape dans la force du Saint-Esprit. Il tape dans la paix et dans la joie de Dieu. Parce que la pensée de Christ, c'est la pensée de l'onction. Il ne laisse pas le péché qu'on a fait contre lui produire des effets néfastes en lui, comme la rancœur, comme la haine, comme la victimisation. Il ne fait pas ça. Il sait qu'il est un enfant de Dieu. Il a la parole de vérité. Il sait que la pensée est une arme. C'est pour ça que Pierre dit « Armez-vous de la même pensée !» Il ne dit pas ça pour qu'on se flagelle en disant « Mais la même pensée de souffrir Non, parce qu'il sait que quand tu penses autrement, tu es capable de retourner une situation d'oppression ou de pression en victoire. Tu es capable de retourner une situation de pression en puissance. Mais tous, si je dis, si vous ne levez pas la main, qui a déjà souffert au moins une fois? Je dis, qui a déjà souffert jusqu'aux larmes à crier vers Dieu? Tout le monde lèverait la main. Je dis, mais qui a déjà eu tellement de douleur dans son cœur que tu as l'impression qu'il y a des pics? Tout le monde! Et donc tout le monde a l'opportunité de transformer une situation d'oppression, de pression en puissance. La souffrance nous rend pire ou meilleur. Et le choix nous appartient. Ça dépend comment on pense. C'est pour ça qu'il est dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est à côté. Et ce que Jésus disait, J'aime ce verset dans Philippiens 4, 6 qui dit « Ne vous inquiétez de rien. » Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est puissant ici. Pourquoi ? Parce que si ton besoin, par exemple, tu n'as pas de moyens pour payer tes deux traites de loyer qui arrivent et ta traite de voiture, tu as été mis à la porte ou ton entreprise a fait faillite, wow, c'est compliqué. Et tu pries, tu dis, Seigneur, voici mon besoin, j'ai besoin de 50 000 euros. Et tu es inquiet, et tu pries, et tu fais monter à Dieu ton inquiétude de 50 000 euros. Mais la réponse, c'est que tu ne reçois pas 50 000 euros. C'est que tu reçois la paix qui surpasse toute intelligence et qui garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Quel que soit ton besoin, la réponse sera la paix qui surpasse toute intelligence. Pourquoi ? Parce que quand tu reçois cette paix qui surpasse toute intelligence, ton cœur et tes pensées sont alignés au cœur et à la pensée de Dieu. Et c'est ce qu'il nous faut pour trouver la solution que Dieu a pour nous, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit, il le fera. À sa manière. C'est ça le truc. J'ai rarement vu Dieu faire d'une autre manière. Je crois pas que Dieu sait faire d'une autre manière. Il fait à sa manière. Heureusement d'ailleurs. Mais nous, il faut que nos cœurs et nos pensées soient en Jésus-Christ. La pensée de Christ, lorsque tu te repens pour avoir cette réalité du royaume, alors tu synchronises ton cœur avec son cœur. Dans Colossiens 1, 21, il est écrit « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. » On peut être ennemi de Dieu par nos pensées. Mais on peut être aussi amis de Dieu par nos pensées. Et il nous a réconciliés. Romains 5, 10. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Le mot réconcilié, c'est le mot grec katalage ou katalazo, qui signifie remettre en accord, en harmonie, comme une monnaie d'échange pour équilibrer l'échange comme il se doit, que ce soit équivalent. Si tu préfères le mot, ici katalazo parle de remettre en symphonie, de remettre en accord comme une guitare qu'on accorde. Ça parle de ça, c'est remettre en accord le rythme de son cœur avec le rythme de ton cœur par sa pensée dans ta pensée. Afin de pouvoir avoir à nouveau accès à une intimité de cœur à cœur. C'est remettre en symphonie la relation. C'est ça, réconcilier. J'ai un ami qui s'est fait opérer du cœur dernièrement, on lui a mis un pacemaker, et le problème c'est que le médecin l'avait mal réglé. Et donc, après l'opération, pendant des jours et des jours, il était hyper fatigué. Et il ne faisait rien. Il dit, mais ce n'est pas possible, je continue comme ça, je vais mourir, quoi. Il est parti voir un autre médecin. Et l'autre médecin dit, mais c'est catastrophique. En fin de compte, le cœur était réglé à l'inverse du pacemaker. Et il me dit, Steve, dans des heures, j'étais branché. Et le médecin écoutait, faisait, et il réglait, il accordait le son du pacemaker avec mon cœur, jusqu'à ce qu'ils étaient à l'unisson. Et là, j'étais plus fatigué parce qu'on battait au même rythme. C'est ça, réconcilier. C'est Dieu veut régler, accorder ton cœur avec le sien. Et ça passe par apprendre à penser comme il pense, au travers de sa parole. Parce qu'apprendre à penser comme Christ également va faire en sorte que toi et moi, nous puissions apprendre à aimer plus. Pour aimer comme Christ, il faut penser comme Christ. Parce que lorsqu'on parle de la pensée transporte des émotions, des sentiments. La Bible dit dans Philippiens 2:5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Waouh! Je veux dire, ayez en vous les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ. Comment avoir les sentiments qui sont en Jésus-Christ? En apprenant à penser comme Christ. Le mot ici, sentiment, ne parle pas d'émotion. Ça parle en réalité, écoutez bien ceci, ça parle d'une conviction qui nous fait comprendre l'importance des autres. Ça parle d'un sentiment ou d'une perception toujours revêtue de la valeur des autres. Ça parle ici d'une pensée revêtue d'un sentiment qui valorise toujours les autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, parle, il faut toujours avoir, lorsqu'on pense comme Christ, on va toujours avoir une pensée qui va être accompagnée de la valeur des autres. C'est ça, Philippiens 2. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant avec la forme de Dieu, mais ce n'est pas comparé à être égal à Dieu. Il s'est dépouillé pour toi et moi. Il avait toi en tête. Il avait moi en tête. Dans ses sentiments, il pensait à toi. Il pensait à moi. Il se dit, je vais aller à la croix pour Fred. Je vais aller à la croix pour Altaïr. C'est ce qu'il se dit. Je vais y aller. Pour toi, pour moi, il pense, et quand il endure la souffrance, c'est parce qu'il pense à toi et moi. Il dit non, je ne vais pas les perdre, il faut qu'ils reviennent à moi. C'est une conviction, c'est un profond amour. Tu ne peux pas penser comme Christ, ne pas aimer les gens. C'est penser comme peut-être la religion, mais pas comme Jésus. Quand on pense comme Jésus, on apprend à aimer plus. Parce que sa pensée est imbibée de qui il est. Et qui il est amour. Il y a quatre mots pour le mot amour dans les Écritures. Il y a le mot eros qui a donné érotique. Ce n'est pas celui-là. Il y a le mot philéo qui parle de l'amitié. L'amour, l'amitié. Quand quelqu'un t'aime, ce n'est pas compliqué de l'aimer en général. Il y a l'amour stergo qui parle de l'amour familial. Tu sais même pas, mais tu aimes tes enfants, c'est comme ça. En général, j'espère. C'est que c'est là, tu aimes, c'est là. T'es content. Et puis il y a le mot agapé, qui parle d'un amour qui n'est pas de ce monde. Cet amour-là, on ne peut pas l'avoir si on ne le reçoit pas. Et on le reçoit par la foi en Jésus-Christ. La Bible dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. S'il ne nous aime pas le premier, on ne peut pas aimer. C'est son amour et sa bonté qui nous pousse à la repentance. Et c'est son amour qui nous fait penser autrement. Et quand on pense son amour autrement, alors on peut aussi penser avec une pensée imbibée de son amour. Et une pensée imbibée de son amour change la perspective du passé, du présent et du futur. Comme Joseph. Parce qu'on est aimé les premiers par Jésus-Christ. Son amour, c'est le vaccin que le monde a besoin. Et que toi et moi, on a besoin. Penser comme Christ nous fait aimer plus. Nous fait aimer comme Jésus nous aime. Penser comme Christ nous donne accès à une sagesse qui n'est pas de ce siècle. Pardonner, ce n'est pas de ce siècle. Ça vient d'en haut. 1 Corinthiens 2:6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. C'est qui les parfaits ? 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 Vous n'êtes pas trop sûr. C'est pas moi qui ai écrit ça. Hein ? Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. La gloire à qui ? La gloire à qui ? À lui. Moi, tu sais, je ne pense pas. Pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu a données par sa grâce. Verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ. C'est dans le contexte ici de 1 Corinthiens 2 qui parle d'avoir accès à la sagesse à venir. Une sagesse qui n'est pas de ce monde, qui n'est pas accessible, que l'œil n'a point vu. Il faut comprendre cela. Quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce que la Bible dit ? Leurs yeux se sont ouverts. Et ils virent qu'ils étaient et leurs yeux se sont ouverts sur une réalité qui a été affectée et déformée par le péché. Mais Dieu, dans sa sagesse, a trouvé, avait déjà une autre solution en tête. C'est comme maintenant leurs yeux se sont ouverts et ils vont commencer à trop fonctionner par rapport à ce qu'ils voient. Alors je veux créer une sortie qui s'appelle la foi, afin qu'ils ne marchent pas par la vue, mais par la foi. Pour qu'ils arrêtent de juger à l'apparence ou uniquement de comprendre leurs circonstances dénaturées par le péché, uniquement avec les yeux humains et leur compréhension humaine. Mais je vais faire en sorte de leur donner d'autres yeux, les yeux de la confiance en moi. Parce que maintenant, ce qu'ils voient est dénaturé par le péché. Et s'ils font uniquement confiance à ce qu'ils voient, ils vont se tromper. Parce que le péché signifie rater la cible. C'est pour ça qu'il est dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Et la foi voit dans l'invisible. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais on est capable de les démontrer, on est capable de démontrer par la foi ce qu'on ne voit pas. Il y a déjà eu des grosses tempêtes à Montpellier. Oui ou non, des tempêtes, des vraies tempêtes. Avec la pluie, le brouillard, le froid, le vent. C'est déjà arrivé ici ? À La Réunion, il y a les cyclones. Hein. C'est pire. Mais quand tu es dans une tempête naturelle, est-ce que tu vois de loin ? Non. Tu ne vois pas de loin. C'est pareil dans les tempêtes de la vie. On essaye d'analyser, de résoudre la tempête avec les yeux naturels qu'on a dans le moment. Mais on ne voit pas loin. Parce qu'on a besoin de la foi qui nous donne accès à la sagesse de Dieu. Hébreux 6,4 nous dit, en effet, ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté au don du ciel, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante et fait l'expérience des forces du monde à venir. Je relis, ça m'encourage. Qui ont expérimenté ô combien la parole de Dieu est bienfaisante et fait l'expérience des forces du monde à venir. Hey, c'est bon quand même ça. Dire, en Christ, on est capable de faire par la foi l'expérience de la sagesse à venir et l'expérience des forces du monde à venir. Vous savez qu'au début des années 1800, il y avait des maladies qui n'existent plus aujourd'hui, qui sont des maladies du passé, parce que la médecine a trouvé des remèdes. Aujourd'hui, on a des maladies comme le cancer, le sida ou autre. Il n'y a pas encore de remède, mais dans la sagesse à venir, si. Dans le futur, ce sera des maladies aussi du passé. Et je me dis, mais où sont les enfants de Dieu qui peut-être sont dans la médecine, qui ont percuté qu'ils ont la pensée de Christ et qui sont capables d'avoir accès à une sagesse qui est du monde à venir pour la ramener dans le présent parce qu'ils réalisent que penser comme Dieu leur permet d'apporter des solutions sur la terre comme au ciel. Parce qu'ils réalisent qu'ils ont la pensée de Christ. Parce qu'ils réalisent qu'ils ont des solutions. C'est ça, Lauriane. Je me souviens de ton rêve en te voyant. C'est ça. Non, un jour, Lauriane, que je vois là, en parlant de ça, elle m'écrit en me disant, Steph, j'ai fait un rêve de toi où tu étais en train de donner des remèdes de solutions pour... Elle est médecin. Pour la médecine. Un peu ça, Lauriane. C'était quoi ? Purée, je formais les chirurgiens. De nouvelles techniques. Ce que je pense, c'est un rêve prophétique. Ça ne veut pas dire forcément, c'est moi qui va le faire. Je ne suis pas médecin. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le rêve prophétique que tu as eu, ça correspond au passage d'écriture que je vous parle. Lauriane, je ne sais pas que tu es là. Regarde. Elle était avec nous à la réunion. Et elle est venue ce soir. Et je me dis, mais c'est vraiment ça. C'est parce que les enfants de Dieu ne percutent pas. Ils ne percutent pas qu'ils ont accès à la réalité du royaume de Dieu en pensant autrement. Et c'est dommage. Il y a la vie de Christ qui attend de couler au travers de toi, dans tes veines, et avoir ses solutions futures et les ramener dans le présent. C'est possible. Parce que Dieu nous a donné la pensée qui est une puissance phénoménale. C'est une arme. C'est une arme pour faire la différence. Et si même les enfants, même ceux qui ne croient pas en Dieu, ont accès à cette arme et peuvent faire la différence, mais à combien plus forte raison les enfants de Dieu qui ont la pensée de Christ ? S'il vous plaît, est-ce que tu peux regarder ton voisin ou ta voisine un instant et lui dire de ma part, tu n'as pas le droit, dis-lui avec conviction, tu n'as pas le droit de te limiter. Je crois qu'un enfant de Dieu n'a pas le droit de se limiter. Parce que si tu te limites, tu limites ce que Dieu veut faire au travers de toi. Et il faut donc être renouvelé de notre façon de penser. Et je me dis, mais c'est juste impressionnant. Je suis tellement persuadé, et je sais que ce que je vous dis en parlant de la médecine ou d'autres choses, c'est là. Dieu ne va pas dire, ben, il n'y a pas de solution pour le cancer. Tu ne vas pas dire ça. pour que plus jamais dans le futur des gens puissent être traités comme Solange a été traité, difficilement dans les épreuves. Il y en aura sûrement d'autres. Il faudra à nouveau avoir accès à autre chose. Mais c'est possible. Amen, merci. La Bible dit de Daniel, de Shadrach, Meshach et Abednego qu'ils avaient 10 fois plus de sagesse que tous leurs collègues. Le roi s'entretint avec eux, Daniel 1, 19. Et tous les jeunes gens qui lui furent présentés, il n'en trouva aucun comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. C'est pourquoi ils entrèrent au service personnel du roi. Chaque fois que le roi consultait sur une question exigeant à la fois de la sagesse et du discernement, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les mages et les magiciens de son royaume. T'imagines les jeunes, les moins jeunes, toi dans ton entreprise où tu es, si tu as un poste où tu viens d'arriver, mais tu es tellement perspicace, tellement efficace, tu as tellement de discernement, quand il y a une réunion, ton point de vue est tellement pointu que le patron fait Oh, lui là et elle là. Il faut l'avoir dans l'équipe. Hein. Et si c'est ce qu'on va dire, oui, mais moi j'ai pas réussi à l'école. Ah, ne laisse pas le fait que tu n'as pas réussi à l'école te limiter. Je vous l'ai dit la dernière fois, il me semble. Moi, en français, j'ai eu moins 24 une fois. Vous avez raconté ça? Oui ou non? Je ne sais plus. C'est en cinquième. La prof m'a dit, Steph, t'es tellement nul en français. J'arrête de te mettre 0. Je vais noter tes moins. Et j'ai eu moins 24. Je veux dire, c'est terrible. Je veux dire, franchement, elle était en train de me faire réellement comprendre que j'étais vraiment nul en français, quoi. Mais je n'ai pas laissé ce qu'elle pense me déterminer. Aujourd'hui, je fais des dissertations tous les week-ends. C'est fou, j'ai écrit 2 livres, il y a un troisième qui arrive, et j'en ai plein d'autres sur mon cœur. Mais c'est Dieu. Je n'ai pas laissé mon moi 24 me limiter. Quand je parle d'avoir une sagesse comme celle d'Aniel et de Shadrach, Meshach, Abednego, jeune ou un jeune, c'est pour te dire, arrête de te limiter. Et ne laisse pas ce que tu as expérimenté devenir une vérité. Mais laisse sa vérité changer ce que tu as expérimenté. C'est dans ce sens. C'est accessible pour ceux qui croient. La sagesse de Dieu. Je crois que plus un homme, une femme de Dieu est spirituelle, plus elle a un impact efficace dans le naturel. Dernièrement, j'ai entendu une personne me dire, il est tellement spirituel, lui, qu'on dirait qu'il est au ciel. Je dis, écoute, je veux bien que ta tête soit au ciel, mais garde les pieds sur terre. À moins d'être comme moi, j'aimerais être comme Enoch. Je suis tellement avec Dieu que je suis inutile sur terre, je vis avec lui. C'est pas ce que Paul a dit. Hein. Paul a dit, je suis écarté entre les deux. Et c'est vrai que le meilleur, c'est de partir auprès de lui. Mais je sais que je vais rester pour pouvoir porter plus de fruits au milieu de vous. Waouh! La particularité d'un homme ou d'une femme spirituelle, d'un enfant de Dieu mature, c'est sa capacité à discerner et avoir un impact dans le naturel, par ses choix, par sa perspicacité, par ce qu'il fait. Hébreux 5:12. Alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de la base de la révélation de Dieu. Vous êtes en effet arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Voilà une des qualités qui montre qu'un homme, une femme est spirituelle, ce n'est pas sa capacité à guérir les malades et sa puissante onction de résurrection. Parce que nous, on pense que c'est ça. Parole de Dieu dit non, la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui en raison de leur expérience ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. C'est des hommes et des femmes efficaces dans la société, conduits par la sagesse de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu sont les profondeurs de Dieu et l'Esprit de l'homme sont les profondeurs de l'homme. Mais l'Esprit de Dieu est dans l'Esprit de l'homme. Et quand l'homme cherche Dieu en lui, il a contact avec l'Esprit de Dieu qui lui révèle les choses de Dieu. Et quand il reçoit les choses de Dieu, consciemment ou inconsciemment comme Pierre, alors il pense comme Dieu. Et quand il pense comme Dieu, alors il se maintient dans la réalité du royaume de Dieu qui consiste en la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et quand il est dans le royaume de Dieu, alors il devient efficace parce qu'il expérimente la puissance de cette réalité dans la réalité naturelle et son efficacité à juger et à discerner ce qui est juste de ce qui est injuste fait la différence. Et ça, c'est accessible à tout le monde dans ce lieu. Ce n'est pas pour les pasteurs. C'est aux enfants de Dieu. C'est juste ça. Est-ce que le groupe peut venir, s'il vous plaît? Un instant. Il y a tellement plus en toi. Il y a tellement plus en chacun ici, jeune et moins jeune. Je veux dire, si tu es un enfant de Dieu, tu as la pensée de Christ. Peu importe ton âge, peu importe ta famille d'où tu viens, peu importe ce que tu as vécu par le passé, c'est pas ça qui te qualifie. C'est ce que tu crois à ton sujet qui te qualifie. C'est ce que tu penses de toi qui te qualifie ou pas. C'est que si tu réalises ou pas que tu as bien la pensée de Christ ou pas, la pensée de son onction. C'est de ça que je parle. J'ai dit en commençant, on est souvent à une pensée de notre percée. Peut-être que dans ce lieu, tu es venu ce soir et tu as un besoin relationnel dans ton couple, dans ta famille. Peut-être un besoin relationnel avec toi-même. Tu ne t'aimes pas. Tu ne crois pas à ce que Dieu dit de toi. Peut-être que ton passé est tellement présent et quand tu vois, tu penses qu'il t'a qualifié. C'est Dieu qui te qualifie. Si tu te laisses qualifier par lui, Jésus est mort et ressuscité pour toi. Il n'a pas eu peur de souffrir pour que tu puisses avoir sa vie. Alors, est-ce qu'on peut fermer les yeux, s'il vous plaît, un instant? Si dans ce lieu, ce soir, tu me dis, Steve, moi, je me suis éloigné de Jésus, ou ça fait un moment que je ne crois plus, ou je ne connais pas, et j'aimerais tellement, aujourd'hui, me repentir et avoir accès à cette pensée, à cette réalité, pour contempler, bénéficier, expérimenter sa paix, sa joie et sa justice. Si tu te sens loin de Dieu et que tu as besoin de plus de lui, lève ta main là où tu es, s'il te plaît. Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci, merci. Demandez à toutes ces personnes qui ont levé la main, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout là où vous êtes? J'aimerais vraiment prier pour vous. Juste debout là où vous êtes. Parce que vous êtes précieux pour lui. Il n'y a pas de condamnation pour toi. Il n'y a pas de jugement pour toi. Dieu veut que tu expérimentes sa bonté. Et il veut que sa bonté te pousse à la repentance. Peu importe ce que tes parents ont fait ou pas fait, ou ce qu'ils font pas. C'est toi qui veux. C'est ton cœur qui veut. C'est toi qui cherches. Et il veut que tu expérimentes sa réalité dans ton cœur. La réalité de son règne. Il veut que sa vie abondante soit quelque chose que tu testes chaque jour de ta vie, malgré les difficultés. Il est capable de transformer la pression de la difficulté en une puissance qu'il veut libérer au travers de toi, afin que le faible dise « Je suis fort ». Merci de t'être levé. Est-ce que tous ceux et celles qui sont levés, vous pouvez juste mettre la main sur votre cœur, s'il vous plaît, et prier avec moi? Je peux juste baisser un instant le son. Priez là où vous êtes avec moi, à voix haute, ensemble. Vraiment, oublie ton voisin, ta voisine, franchement, sans toi et Dieu. Dis avec moi, dis Jésus, ce soir, je veux goûter comme jamais à ta bonté. Je veux l'expérimenter par moi-même. Je demande pardon pour mes péchés et mes fautes. Et je reçois ton pardon. Je sais que tu ne me juges pas. Je sais que tu ne me condamnes pas. Je sais, je crois que tu m'invites toujours à goûter à ton amour et qu'il n'est pas trop tard. Alors ce soir, merci de faire de moi ton fils ou ta fille. Merci de me permettre d'accéder à la réalité de ton règne. Règne en moi, Jésus. Que ta paix, ta justice et ta joie soient ma portion. Je m'attends à toi, mon roi. Touche-moi là où je suis. Amen.